grand titre de ce 11 juin. En Australie, le gouvernement cherche la coopération des médias sociaux pour aider à décrypter les communications entre les groupes terroristes. Les forces spéciales américaines luttent contre les djihadistes de Daesh aux Philippines. En France, premier tour des élections législatives ce dimanche. Yelena Ostapenko, la Lettone, gagne la finale du tournoi des dames à Roland-Garros hier soir. En Australie, le gouvernement cherche le soutien des principaux acteurs des réseaux sociaux comme Apple, Facebook et Google dans la lutte pour décrypter les messages codés des groupes terroristes. Le procureur général George Brandis veut changer les lois en Australie. On l'écoute, il est sur Sky News.
My concern is that the existing law, there's a provision section 3LA of the Crimes Act, the Commonwealth Crimes Act, and there are also provisions under the Telecommunications Act, don't go far enough in imposing obligations of cooperation upon the corporates.
Voilà le procureur général. Le député des Verts, Adam Bent, sur l'ABC, déclare qu'il est concerné par ces propositions de changer les lois.
The idea that somehow by treating everyone as a suspect and saying that no longer are you able to have secure communications with someone else, no longer can you talk confidentially, that everything is potentially going to be open to the government is again very, very worrying. And you have to ask whether or not responding to every threat of terror by taking away liberties and by giving the government increasing power over people's lives is really the right way to go, and I don't think it is.
Voilà le député des Verts, Adam Bent. Le ministre de l'Énergie, Josh Frydenberg, parle à ses collègues de la coalition sur les mérites d'un objectif de l'énergie propre et de coûts durables. Certains d'entre eux sont concernés par l'impact sur le charbon. Le ministre est certain qu'une position puisse être adoptée sur les recommandations du scientifique Alan Finkel sur la sécurité du marché de l'électricité.
As the Prime Minister said, the public are looking for us to take the politics out of it, to focus on the engineering and the economic challenges. Business as usual is not an option for us because we are dealing with a less stable, higher price system. We need to adopt a technology neutral approach and we need to put consumers first.
En Grande-Bretagne, le parti DUP, Democratic Unionist Party de l'Irlande du Nord, est arrivé à un accord pour soutenir son gouvernement minoritaire sans une coalition formelle. Il y a eu beaucoup de changements depuis quelques jours au sein du parti conservateur. Les précisions de Marina Daras de Radio France Internationale depuis Londres.
La consigne était claire. Si elle veut préserver son rôle de première ministre, Theresa May doit changer radicalement sa manière de gouverner. C'est donc ses deux plus proches conseillers qui ont été éjectés de son gouvernement aujourd'hui. Nick Timothy et Fiona Hill, qui se partageaient le rôle de directeur de cabinet, ont présenté leur démission en début d'après-midi. Ils étaient tous les deux en charge de la stratégie électorale du Parti conservateur. Fiona Hill, ancienne journaliste, s'occupait de la communication de Downing Street, alors que le jeune militant conservateur Nick Timothy était quant à lui très impliqué dans la rédaction du programme du parti, un programme très critiqué depuis la défaite aux législatives. Nick Timothy et Fiona Hill conseillaient déjà Theresa May depuis 2010 lorsqu'elle était au ministère de l'Intérieur. Les élus conservateurs ont donc fait pression sur Theresa May pour qu'elle se sépare de sa garde rapprochée qui avait beaucoup trop de pouvoir à leurs yeux et qu'elle s'ouvre enfin au reste du parti. Mais cela ne suffira peut-être pas pour la maintenir au pouvoir. Les rumeurs vont bon train pour tenter de trouver un candidat potentiel pour remplacer Theresa May. Les médias britanniques parlent aujourd'hui de deux potentiels candidats, Boris Johnson, l'actuel ministre des Affaires étrangères, et Amber Rudd, la ministre de l'Intérieur.
Marina Daras pour RFI. La chef du parti conservateur écossais, Ruth Davidson, déclare avoir reçu des assurances de la première ministre Theresa May sur les droits des personnes gays et lesbiennes. Ceci après l'accord conclu par Theresa May avec le DUP qui est contre le mariage pour tous. On écoute Ruth Davidson.
Well, I sought, and to be fair to the Prime Minister, received a categoric assurance that in talking to the DUP there would be no suggestion of any rollback of LGBTI rights. In the rest of the UK, we are, as the Conservative Party, the party of equal marriage. We introduced it, the bill to the House of Commons, and also that we would seek to use any influence that we had to advance LGBTI rights in Northern Ireland. And these are assurances that I received.
Voilà la chef du Parti conservateur en Écosse, Ruth Davidson. La chef de la police de Londres, Cressida Dick, déclare que la ville ne sera pas intimidée par des djihadistes qui ont tué 35 personnes dans 3 attaques différentes en Grande-Bretagne ces derniers temps. La commissaire de police demande des ressources additionnelles pour combattre la menace de la terreur.
And I'm expecting to have conversations with colleagues across the police service about what we think we need to face this changing and emerging threat. And we'll of course be talking to government. I'm quite sure that I will be saying that I can lead a police service which in the future can make even further savings, as we have all had to do, but that we will want more resources to help us, and I'm sure the same will be being said in the intelligence agencies and elsewhere.
Voilà la chef de la police de Londres. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rencontré son homologue du Qatar pour trouver une solution à la crise de plusieurs pays arabes qui ont rompu les relations diplomatiques avec le Qatar. À Moscou, les précisions de Jean-Didier Revoin pour RFI.
En rencontrant son homologue qatarien, Sergueï Lavrov a rappelé que la Russie avait pour principe de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État, ni dans les relations bilatérales de deux d'entre eux. Mais dans le même temps, le chef de la diplomatie russe a souligné que Moscou ne pouvait se réjouir de voir les relations entre ses partenaires se détériorer. En acceptant de recevoir le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Moscou en profite une fois de plus pour s'affirmer comme une puissance incontournable dans le règlement des problèmes émergents sur la scène internationale, d'autant que les tensions qui secouent les monarchies du Golfe peuvent avoir d'importantes répercussions sur la crise syrienne, où Moscou est engagée de manière déterminante dans la lutte contre l'État islamique aux côtés de Bachar el-Assad. Moscou redoute en effet que cette crise dépasse les frontières des pays du Golfe pour s'étendre au reste du Moyen-Orient, raison pour laquelle le ministre russe a rappelé en accueillant Mohamed bin Abdulrahman al-Thani que Moscou souhaitait voir les parties régler leurs différends par la négociation et que la Russie était prête à agir avec le consentement et dans l'intérêt des parties impliquées pour régler ce conflit diplomatiquement.
Jean-Didier Revoin pour RFI. La chancelière allemande Angela Merkel est au Mexique pour une visite officielle et déclare que la construction d'un mur le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique n'est pas une solution pour gérer l'immigration illégale.
Natürlich ist das wichtigste Fluchtursachen vor Ort erst einmal zu beginnen.
What can we do? First, you must fight against the causes that motivate people to leave their homes, and building walls doesn't help. At least you have to try to create at least a new view that will improve the lives of people in their countries.
Voilà, c'était Angela Merkel. Les forces spéciales des États-Unis ont rejoint les forces gouvernementales des Philippines pour lutter contre les djihadistes de Daesh dans la ville de Marawi au sud du pays. Écoutez le lieutenant-colonel Joa Herrera de l'armée des Philippines.
The presence of the US counterparts facilitate the exchanges of intelligence, facilitate subject matter experts exchange, and also provides training exchanges, and of course the technical support that we are sharing together in the fight of global terrorism.
Voilà le lieutenant-colonel Joa Herrera. Et puis dans les combats hier, 13 soldats philippins ont été tués. Reportage Marianne Dardar pour RFI.
Les 13 soldats morts hier ont été tués par des engins explosifs et des tirs de lance-roquettes. Selon l'armée philippine, les terroristes du groupe Mao Tse ont des tireurs embusqués positionnés en haut des minarets des mosquées de Marawi. L'armée affirme également avoir découvert plusieurs tunnels souterrains, vieux de plusieurs années et ayant pu servir de cache d'armes. Enfin, le groupe Mao Tse utiliserait des civils comme boucliers humains. Auparavant, l'armée philippine avait encore promis la libération de la ville d'ici quelques jours, tandis qu'aujourd'hui, l'ambassade des États-Unis à Manille révèle la participation des forces américaines spéciales en renfort des troupes philippines. Officiellement, jusqu'ici, l'armée philippine évoquait une assistance d'ordre purement technique de la part de Washington. Cible principale des opérations en cours, le numéro 1 de l'organisation État islamique aux Philippines, Isnilon Apilon, serait en vie et se trouverait toujours dans la zone des combats en centre-ville. Accusé de vouloir fédérer les djihadistes de la région sous la bannière de l'État islamique, Isnilon Apilon figure parmi les terroristes les plus recherchés par les États-Unis.
Marianne Dardar pour RFI. Le premier tour des législatives en France, c'est ce dimanche. L'Assemblée va être profondément renouvelée, nous dit Anissaël Jabri pour RFI.
C'est un record. Depuis 15 ans, presque 14 candidats en moyenne pour un siège, 577 au total, dont 11 pour les Français établis à l'étranger. Autre record, le nombre d'élus qui ne se représentent pas, 39%. Il y a bien sûr le non-cumul qui joue, la lassitude aussi, le souhait surtout de s'éviter une humiliation électorale. La soif de renouvellement des Français est là et nombreuses sont les figures de la vie politique qui ne siégeront plus à l'Assemblée. Maintenant, le Palais Bourbon devrait conserver la même allure. Le candidat type est encore et toujours le plus souvent un homme, 6 candidats sur 10, la lanterne rouge étant LR avec seulement 39% de femmes. Domination aussi, c'est un classique, des salariés, cadres et professions libérales se présentent seulement environ 5% d'ouvriers, 5% aussi de sans-profession. L'âge moyen des candidats, lui, reste élevé, presque 49 ans et ça n'a rien d'un progrès. En 97, il était de 42 ans. Enfin, 6 ministres jouent leur présence politique sur ce quinquennat. Ils devront tous quitter le gouvernement en cas de défaite.
Anissa El Jabri pour RFI. Les Français de l'étranger ont déjà voté la semaine dernière. Prochain rendez-vous, c'est dimanche 18 juin pour le deuxième tour. Et puis le président français, Emmanuel Macron, était à Oradour-sur-Glane hier, ce village où le 10 juin 1944, la division SS Das Reich a massacré 642 personnes. Reportage Valérie Gasse pour RFI.
Tout a été très étudié dans cette cérémonie à Oradour-sur-Glane pour que les images soient parfaites. Emmanuel Macron est arrivé vers 10h du matin. Il est entré seul, lentement, dans le village martyr. 500 enfants venus de toute la France qui étudient la Seconde Guerre mondiale s'étaient massés tout au long des rues en ruines. Le président de la République, très solennel mais souriant, a échangé avec eux. Emmanuel Macron était accompagné de Robert Ebras, le dernier survivant du massacre qu'il avait déjà rencontré lors de sa première visite en avril. C'est avec lui qu'il s'est recueilli, notamment dans l'église où les femmes et les enfants du village avait été enfermé avant d'être tué. Des enfants de l'école d'Oradour-sur-Glane, habillés de t-shirts blancs, étaient eux aussi présents, symbole de l'innocence meurtrie. Évoquer le devoir de mémoire et la transmission, c'était l'objectif d'Emmanuel Macron lorsqu'il a pris la parole.
Jeunes filles, jeunes gens, enfants, vos aînés ne m'en voudront pas, j'en suis sûr. Si, avant tout, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui.
Emmanuel Macron a demandé aux jeunes réunis devant lui de devenir des témoins, des passeurs. Très littéraire, très pédagogue, le président de la République a rappelé que le seul rempart contre la barbarie, c'était la conscience. Dans un aller-retour entre le passé et le présent, Emmanuel Macron a essayé de faire passer un message pour l'avenir en appelant les jeunes à édifier un monde meilleur.
Valérie Gasse pour RFI. La Centrafrique reste l'un des endroits le plus dangereux pour les travailleurs humanitaires, selon un rapport des Nations Unies. Précision Pierre Pinto, RFI.
Près d'un tiers, 31% des incidents de sécurité rencontrés par les agents humanitaires dans le monde en 2016 ont eu lieu en Centrafrique. Ce pays reste l'un des plus dangereux pour les travailleurs humanitaires, explique Antonio Gutiérrez, qui rappelle aussi que les casques bleus ont payé le prix fort également. 6 d'entre eux ont été tués au mois de mai. De son côté, dans son dernier bulletin, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, indique que le nombre de déplacés internes en RCA a dépassé les 500 000 pour la première fois depuis août 2014. La ville de Bria, par exemple, s'est vidée de ses habitants en 4 jours mi-mai, toujours selon OCHA, qui parle d'une tendance à l'embrasement et constate que les affrontements prennent de plus en plus une connotation religieuse et ethnique. Fin de citation. Plus de 400 000 Centrafricains sont par ailleurs toujours réfugiés dans les pays voisins. Et alors que cette situation s'aggrave, Antonio Gutiérrez rappelle, lui, la nécessité de réunir les 400 millions de dollars nécessaires à la réponse humanitaire cette année. L'an passé, à peine 36% de la somme demandée avait pu être financée, laissant, je cite, près de la moitié de la population centrafricaine sans assistance humanitaire. Autre motif de préoccupation d'Antonio Gutiérrez, la LRA, qui pourrait profiter de l'appel d'air causé par le retrait des forces ougandaises et américaines qui ont stationné dans la zone plusieurs années.
Pierre Pinto pour RFI. En Libye, Saïf al-Islam Gaddafi aurait été libéré. C'est ce qu'a annoncé un groupe armé de Zenten, la ville libyenne où le fils cadet de l'ancien leader libyen est détenu depuis novembre 2011. Un mot de sport, la Russe Maria Sharapova a déclaré forfait pour les qualifications du tournoi de Wimbledon pour cause de blessure à la jambe. Elle dit qu'elle fera son retour le 31 juillet prochain. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximal de 24 degrés, Adélaïde 17, Melbourne 16, Hobart 15, Canberra 16, Sydney 20, Brisbane 22, Cairns 25, Darwin 31 et à Alice Springs maximale de 18 degrés. Un rappel des grands titres de ce 11 juin. En Australie, le gouvernement cherche la coopération des médias sociaux pour aider à décrypter les communications entre les groupes terroristes. En France, premier tour des élections législatives ce dimanche. Yelena Ostapenko, la Lettonne, gagne la finale du tournoi des dames à Roland-Garros.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench